France Culture.
Le journal de la rédaction, Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Pas de suspension, mais une surveillance rapprochée. Le géant du commerce en ligne Shein, acculé par les polémiques depuis une semaine, a retiré les produits illicites à la vente sur sa plateforme. Le ministre de l'économie y voit une victoire, appelant désormais l'Union européenne à se mobiliser. Autre polémique, celle du Festival international de BD d'Angoulême et de sa direction, la société 9e Art, qui, pour lui succéder, l'association propriétaire de l'événement décide de ne pas choisir et demande aux deux candidats, dont 9e Art, un projet commun. Nous irons en Ukraine, où les frappes russes la nuit dernière ont fait au moins 3 morts et détruit plusieurs centrales thermiques. Enfin, nous reviendrons en longueur sur la situation au Mali, alors que le Quai d'Orsay invite les ressortissants français à quitter le pays temporairement face à la pression des djihadistes. Notre invité est l'historien Pierre Bollet, ancien directeur de l'Institut des Mondes Africains. Après donc une semaine de pression contre la plateforme asiatique Shein, suite à la découverte par la direction de la répression des fraudes de poupées à caractère pédocriminel, puis d'armes de catégorie A commercialisées sur son site, le gouvernement a annoncé hier soir avoir obtenu la suppression de tous les produits illicites vendus sur la plateforme, qui échappent donc à la suspension. Shein avait 48 heures pour se mettre en conformité. Bonjour Mathilde Cariou.
Bonjour à tous.
C'est donc chose faite, Shein ne vend plus rien d'illégal.
En tout cas, c'est ce que la direction assure. Elle a fait notifier par huissier que les produits illicites avaient été retirés. Et de fait, il y a quelques jours, on pouvait trouver non seulement des poupées, mais aussi des machettes, des couteaux zombies, des poings américains, tous vendus sous des appellations différentes. Couteaux de camping, haches de jardin, bagues en métal, bref, tous ces objets ont été retirés de la vente. Et les mots-clés, machettes, points, etc. sont même bannis de la plateforme qui affiche désormais une page d'erreur. Ce qui est important de comprendre, c'est que Shein n'a pas retiré un à un tous ces objets. Ça aurait été un travail de fourmi, mais a plutôt suspendu l'ensemble de sa marketplace, c'est-à-dire l'endroit du site où sont vendus des objets d'autres marques que la sienne. Résultat, ce matin, il n'y a plus que des vêtements à vendre sur Shein en France.
Et Mathilde, le ministre de l'économie, parle d'une victoire qui en appelle d'autres.
Oui, d'abord parce qu'il y a d'autres procédures en cours à l'encontre de Shein. Quelques 200 000 colis ont été saisis ces derniers jours à l'aéroport de Roissy. Ils sont en train d'être ouverts et contrôlés un par un. La France a également demandé à la Commission européenne de lancer une enquête sur les pratiques de Shein, parce que tous ces objets retirés du site français sont toujours accessibles ailleurs. Et puis le ministre annonce que d'autres plateformes vont faire l'objet d'examens dans les jours qui viennent. On pense immédiatement à Temu, AliExpress ou encore Wish, qui avait déjà été suspendu pendant un an en 2021. La liste sera publié dans les prochains jours et un point d'étape est prévu la semaine prochaine avec les ministres de l'économie, du commerce et du numérique.
Mathilde Cariou, la ministre du numérique, vous le disiez Mathilde, Anne Le Hénaff, qui rappelle dans les colonnes du Parisien aujourd'hui que ce scandale des poupées sexuelles met en lumière l'ampleur de la pédocriminalité en ligne et appelle tous les Français à signaler tous les contenus illégaux en ligne. Par ailleurs, l'association La Voix de l'Enfance a porté plainte contre Shein. Sa présidente réclame également que tous les prédateurs qui ont pu se fournir en poupées pédocriminelles soient poursuivis par la justice. À 5 jours des commémorations des 10 ans des attentats de novembre 2015, 3 femmes ont été mises en examen et placées en détention provisoire pour association de malfaiteurs terroristes. Aboutissement d'une enquête menée par le parquet national antiterroriste, ces 3 femmes ont été interpellées le 10 octobre dernier. Le PNAT, qui par ailleurs continue d'enquêter sur d'autres projets terroristes liés à Salah Abdeslam, 3 personnes sont actuellement en garde à vue, dont la compagne du dernier membre vivant des commandos de Paris et de Saint-Denis. Une clé USB introduite dans la prison de Vendin-le-Vieil lui aurait permis de consulter des contenus djihadistes depuis sa cellule. Salah Abdeslam a de nouveau été placé en garde à vue hier avant d'être relâché. Pas de répit pour les députés à l'Assemblée nationale, priés par le gouvernement de voter ce week-end la partie recette du budget de la Sécurité sociale. Les parlementaires du Palais Bourbon doivent se prononcer aujourd'hui. En cas de rejet, la partie dépenses de ce PLFSS contenant la suspension de la réforme des retraites ne pourrait pas être discutée. Le texte serait alors directement transmis au Sénat dans sa version initiale. Le gouvernement espère toujours l'abstention des socialistes plutôt qu'un vote contre, alors que le PS, menaçant de censure, a obtenu l'annonce donc de cette suspension de la réforme des retraites. Eux menacent de boycotter l'événement. Les auteurs de bandes dessinées appellent toujours à un changement de direction du festival de BD d'Angoulême suite aux nombreuses révélations visant l'actuelle direction 9e art et son délégué général Franck Bondou. Or, l'association propriétaire du festival, qui doit choisir aujourd'hui la société chargée d'organiser l'événement à partir de 2028, annonce que 9e art devra monter un projet commun avec l'autre candidat, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, avant le 20 novembre. Cette décision semble ne pas régler grand-chose dans un climat très tendu. Yann Bertrand.
C'est une crise qui dure depuis les révélations de l'Humanité en janvier dernier. La société 9e Art Plus et son délégué général Franck Bondou y sont accusés entre autres de management agressif et surtout une salariée licenciée affirme avoir été forcée de partir après avoir dénoncé un viol subi l'année dernière. Face à ces accusations, le milieu de la BD mais aussi les collectivités locales appellent notamment via une pétition au départ de Franck Bondou et 9e Art Plus, organisateur de l'événement depuis 18 ans. Mais l'association propriétaire du festival et sa présidente Delphine Groux ne tranchent pas jusqu'en mai dernier avec l'annonce du lancement d'un appel d'offres. Dans la foulée, Franck Bondou démissionne, mais 9e Art Plus reste dans la course, incompréhensible pour nombre d'auteurs, dont la gagnante du Grand Prix, Anouk Ricard, qui prend la décision mi-octobre de boycotter la prochaine édition en janvier, laquelle devait, comme la tradition l'exige, organiser une exposition autour de son travail. La décision d'aujourd'hui, une demande de rapprochement entre 9e Art Plus et la Cité de la Bande Dessinée, les deux candidats ne devraient pas éteindre tensions et polémiques.
Yann Bertrand, et hier soir, l'appel à déserter le 53e festival d'Angoulême, qui doit se tenir du 29 janvier au 1er février, a recueilli près de 2300 signatures. Au moins 3 morts et plusieurs régions ukrainiennes privées d'électricité après une nouvelle attaque russe la nuit dernière contre les infrastructures énergétiques. L'armée russe intensifie en effet ses bombardements contre les installations gazières et électriques alors que l'hiver approche. Les explications de Bastien Bory à Kiev.
D'est en ouest, les missiles russes ont longé les lignes à haute tension suivant une trajectoire dictée par le plan du câblage ukrainien. Des frappes prévisibles donc, mais d'une intensité telle que la défense anti-aérienne ukrainienne n'a pu empêcher au sol la destruction de plusieurs centrales thermiques. Pour éviter l'effet domino, les services d'urgence déconnectaient à 1h du matin plusieurs tronçons du réseau électrique, plongeant dans le froid la capitale Kiev, toujours privée ce midi de chauffage, de gaz et de lumière. Dans les hôpitaux, les générateurs de secours ont pris le relais mais au prix du rationnement. Oxygène restreint, blocs opératoires regroupés, appareils non vitaux mis en sommeil. En cause, les Kinjal, des missiles russes hypersoniques de 4 tonnes fusant à 3000 km/h, réduisant à presque rien la fenêtre d'interception. L'énergie, secteur devenu front, a vu l'Europe fournir cette année à l'Ukraine pour 2 milliards d'euros de panneaux solaires et d'équipements de remise en état des infrastructures bombardées. Mais depuis Moscou, l'état-major russe devrait continuer d'enserrer l'armée ukrainienne dans le noir pour l'isoler de ses bases arrière. La ville de Pokrovsk, plaque tournante routière et ferroviaire, menace de tomber dans ce Donbass où l'hiver s'abat avec plus de force encore.
Quitter temporairement le Mali, recommandation de la France à ses ressortissants présents dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Après celle des États-Unis et du Royaume-Uni d'évacuer leur personnel non essentiel la semaine dernière, alors que la capitale Bamako et de nombreuses régions du pays sont peu à peu asphyxiées par un blocus djihadiste. Le ministre des Affaires étrangères estime que le contexte sécuritaire se dégrade depuis plusieurs semaines dans le pays où les militaires français sont intervenus pendant 9 ans entre 2013 et 2022. À cette heure, impossible de dire combien de Français se trouvent encore au Mali. Mais le message du Quai d'Orsay est clair. Pascal Confraveau est le porte-parole du Quai d'Orsay, invité de nos confrères de France Info ce matin.
Il y a des vols commerciaux, il y a plusieurs routes pour rentrer en France. Ces vols commerciaux sont encore disponibles, c'est ceux qu'il faut prendre. Nous avons un suivi par d'ailleurs un service qui s'appelle le Centre de crise et de soutien au ministère des Affaires étrangères, qui actualise en direct en fonction de l'ensemble des informations qui nous remontent du terrain. La situation sécuritaire, vous l'avez indiqué, elle est effectivement compliquée. Les groupes terroristes sont descendus du nord vers le sud et vers l'est. Ils sont autour de Bamako et donc c'est notre message, c'est un départ qui est temporaire, dès que possible, par les voies commerciales. Il n'y a aucune certitude pour nous sur la suite. Il y a des actualisations en temps réel, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le personnel diplomatique, d'ailleurs, dont je veux saluer la pleine mobilisation, parfois qui travaille dans des situations très, très difficiles, est pleinement mobilisé ici pour assurer notamment le soutien consulaire.
Pascal Confavreux, porte-parole du Quai d'Orsay. Et bonjour Pierre Boilet.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur et toujours membre de l'Institut des mondes africains. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est resserré le blocus autour de la capitale Bamako ces derniers jours et en quoi la situation sécuritaire s'est dégradée ?
Eh bien, en fait, la situation a commencé il y a quelques temps. Le JNIM, donc son acronyme XIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, donc dirigé entre autres par Iyad Agrali, ancien chef de la rébellion de 90, a adopté une nouvelle stratégie qui consiste en fait non pas à attaquer tout azimut, mais à asphyxier progressivement le pays, donc à contrôler les routes et à incendier des dizaines, voire des centaines de camions-citernes, ce qui fait qu'effectivement, actuellement, donc, Bamako est très asphyxié, mais pas que Bamako, une très large partie du pays, à la fois donc en carburant, mais aussi en produits essentiels. Donc, la situation, effectivement, se dégrade, et c'est une nouvelle stratégie, donc, qui commence à agir sur à la fois le pouvoir, le pays tout entier et son économie.
Est-ce que vous pensez que la capitale malienne pourrait tomber aux mains des djihadistes ? Est-ce que c'est leur stratégie, justement ?
Alors apparemment, la plupart des spécialistes, dont moi, pensent que ce n'est pas le but réel du JNIM de prendre Bamako. Bamako, c'est une grande ville, c'est compliqué à gérer. Le JNIM a essayé déjà dans le passé de gérer des villes, ça s'est pas forcément extrêmement bien passé. Donc, je pense que la plupart des gens pensent qu'il s'agit surtout d'asphyxier, de faire tomber le pouvoir, et éventuellement ensuite peut-être de négocier avec qui on pourra en parler.
Et de quelles forces militaires l'État malien dispose-t-il et les forces militaires sont-elles en mesure de contrer cette menace du JNIM ?
Le Mali dispose d'une armée qui est plutôt bien équipée maintenant, qui a eu des drones, qui en a encore, mais on voit bien que tous ces efforts pour contrer cette stratégie du JNIM échouent presque à chaque coup. Donc actuellement, c'est clair que l'armée malienne ne peut pas réellement desserrer l'étau. Donc c'est une hypothèse possible, mais a priori on y croit guère.
Comment le blocus, la crise du carburant et les images spectaculaires des attaques qu'on a pu voir sont-elles perçues par la population sur place ?
Sur place, la population commence à se désolidariser manifestement du pouvoir, ce qui pourrait être un des buts justement du JNIM, c'est-à-dire de séparer l'adhésion populaire, une certaine adhésion populaire, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette junte. Il y a notamment des gouvernements en exil, il y a l'imam Diko qui est en exil aussi. Donc la population commence manifestement à récriminer contre le pouvoir qui a promis monts et merveilles, mais qui n'a pas assuré ni la sécurité, ni l'économie, ni la prospérité. Et donc, c'est certainement un des effets désirés.
Les militaires au pouvoir au Mali, après deux coups d'État, avaient promis d'endiguer l'expansion djihadiste. Est-ce que la situation actuelle marque-t-elle finalement un constat d'échec et la déliquescence de l'État malien ?
Alors, un constat d'échec, c'est évident, puisque Assimi Goïta, donc le président du Mali par coup d'État, a assuré effectivement que l'armée allait pouvoir empêcher tout débordement du JNIM. Bon, on voit ce qu'il en est. Le JNIM est maintenant un peu partout. Il descend même sur le nord des pays du Golfe. Et c'est complètement raté, effectivement. Le blocage ne marche pas. Donc, le Mali est en vraie déliquescence et le pouvoir produit des communiqués victorieux à chaque fois, mais on sait très bien que c'est simplement pour la propagande.
Et en quelques mots, est-ce que c'est aussi un signe de l'échec du soutien russe à la junte militaire ? Car une partie de la sécurité malienne est censée être assurée aujourd'hui par l'Afrika Korps, l'ancienne milice Wagner.
Oui, je pense que c'est un échec aussi. En fait, l'Afrika Korps était monté avec l'armée malienne pour reprendre Kidal et toutes les villes du Nord pour assurer ce qui, entre guillemets, était l'intégralité du territoire malien et l'intégrité aussi de ce territoire. En pratique, l'année dernière, il y a eu un gros échec de Wagner et de l'armée malienne à Tinzawatan, où il y a eu beaucoup de morts, des prisonniers. On voit bien qu'en qu'ensuite, Wagner s'est essentiellement tourné vers des civils. Donc il y a eu bombardements, exécutions, tortures, enfin toutes sortes d'exactions absolument intolérables. Et en revanche, le but essentiel n'était pas le JNIM justement, mais était plutôt le FLA, c'est-à-dire le Front de Libération de l'Azawad. Et on voit qu'en fait, tout ça a complètement raté et que ce sont les civils qui ont pris.
Merci beaucoup Pierre Boilet. Je rappelle que vous êtes historien, professeur émérite à l'Université Paris 1, ancien directeur, toujours membre de l'Institut des Mondes Africains. Merci également à Loïs Guérin. Un mot de météo avec un temps qui restera très perturbé cet après-midi, avec une perturbation qui continue de progresser vers l'est. Les températures maximales affichent 7 à 10 degrés dans le nord-est, 13 à 16 degrés en moyenne ailleurs.